Ils sont trois cinéastes israéliens. On a énormément parlé d'eux durant trois semaines et encore plus durant toute la nuit. Ils s'appellent Andrew Leibman, Ruby Rochman et David Benaim. Ils ont atterri ce matin à 8h50 précise à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv après trois semaines de prison au Nigeria. Ils ont été accusés d'avoir voulu prendre contact avec des mouvements séparatistes au Nigeria, alors qu'en fait, ils ont voulu faire des reportages sur la communauté juive sur place. Et nous sommes en ligne avec David Benaim. Donc, David, bonsoir.
Bonsoir, Bernard.
Bonsoir. J'imagine que la nuit a dû être à la fois très belle et très dure. Vous avez pris l'avion ce matin, tout petit peu avant 9h du matin. Et maintenant, vous êtes à Tel Aviv. En ligne avec nous sur Radio Shalom.
Oui, la nuit de voyage, c'est pas du tout le plus compliqué. Là, c'était rempli d'adrénaline et de joie de savoir qu'on rentrait à la maison et qu'on rentrait à Tel Aviv tous les trois. Donc ça c'est le moindre mal. Au contraire,
c'est le mieux. C'est le meilleur moment de l'histoire. C'est justement, je me suis trompé.
On est rentré absolument.
C'est le meilleur moment de l'histoire. Mais moi, j'ai un autre meilleur moment de l'histoire pour vous. Puisque nous sommes aussi en ligne avec Israël, qui est le Shaliach Lubavitch sur place, Israël Usan, qui est Shaliach Lubavitch sur place au Nigeria, et qui vous a beaucoup aidé pendant ces trois semaines. Rav Usan, bonsoir.
Bonsoir Bernard, bonsoir Paris.
Merci. Alors, effectivement, on réalise la magie de la technique, un triplex entre Tel Aviv, le Nigeria et Paris, puisque Israël Usan vous a accompagné durant toute votre détention, il vous a amené à manger kasher, vous a amené à manger pour Shabbat, il vous a reçu, quand je dis un autre beau moment, j'ai vu les photos, il vous a reçu chez lui.
Je vais vous expliquer très simplement, Bernard, on a été pris le vendredi 9 juillet au matin dans une toute petite région extrêmement isolée au sud du pays, dans les états d'Alhambra, un petit village qui s'appelle Okidi. On a été pris par les services secrets locaux qui nous ont mis en détention sans nous donner d'indication du tout quelles étaient les raisons de notre arrestation. Parce que d'ailleurs, on n'a jamais été arrêtés. En permanence, ils ne cessaient de dire que nous étions leurs invités. Oh. Sauf que nous étions des invités mis en détention dans des cellules, sans pouvoir manger, sans pouvoir se changer, sans pouvoir se doucher, avec des conditions d'hygiène que... on n'est pas là pour parler de... En fait, on n'est pas vraiment là pour parler de nous, et je vais vous le dire exactement, mais...
Pourquoi?
Je vais vous expliquer pourquoi
vous
c'est important
pas là pour
d'avoir...
Parler de vous Israël. Pourquoi on vous ne seriez pas là pour parler de vous alors que vous êtes...
Parce que je suis journaliste à la base, et comme vous le savez, les journalistes, on est d'abord là pour parler des autres, raconter l'histoire des autres, et que nous, on est allé tourner un documentaire sur la vie des communautés juives Igbo du Nigeria, qui sont à peu près 2-3 000 personnes qui ont une pratique du judaïsme absolument incroyable, et que notre objectif, c'est de faire un documentaire sur ces communautés-là, et c'est notre objectif de documenter ces communautés juives d'Afrique et du reste du monde qui sont un petit peu oubliées de nos consciences. Certains disent que ce sont les fameuses tribus perdues d'Israël. Nous, notre documentaire s'appelle « We were never lost », nous n'étions jamais perdus, parce que eux, quand on leur parle et qu'on communique avec eux, ils disent « mais vous avez perdu notre trace, mais nous, on a toujours su qui on était ». Donc c'est pour ça que ça s'appelle « We were never lost ». C'est pour ça que je vous dis que nous, on est notre objectif, c'est vraiment ça. Alors oui, ce qui nous arrivait, c'est une mésaventure absolument terrible, et on va la raconter, et on peut rentrer en détail. Mais notre objectif, c'est vraiment de mettre la lumière sur ces communautés-là. On doit partir à Madagascar, en Ouganda, tout le monde connaît la communauté éthiopienne. Notre première saison est faite pour parler de l'Afrique, et notre première étape, c'était d'aller au Nigeria à la rencontre de cette fameuse communauté ibo-juive, de petites communautés du sud de l'Afrique, également à Lagos et à Abuja. Et donc, pour revenir à Israël Usan, qui est en effet le chaliach du Chabad, le patron du Chabad, et un grand patron, je peux vous dire que s'il n'était pas présent au début physiquement, il était présent avec
mais
nous au quotidien, et nous on
David,
avait pris l'objectif.
David, je vous interromps parce qu'il va faire comme vous, il va faire comme vous, il va me dire merci, parlez pas de moi, moi aussi j'ai un patron, il est juste au-dessus de moi, vous allez voir.
Mais je vais vous parler de moi.
Vous allez dire la même chose,
vous
le patron, il est au-dessus.
Il a un patron et... vous avez raison. Je vais vous parler de nous et de notre histoire et pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir cet angle du Chabad aussi. C'est que, donc en effet, on a été pendant 5 jours sans nouvelles du monde entier. On ne savait pas si les gens savaient où on était. On a été transportés dans des conditions terribles. On a fait 900 km sur des routes qui passent du bitume à la terre battue, avec une camionnette qui a plus de frein, un pneu qui explose. Ben, vous pouvez imaginer les conditions terribles dans lesquelles on a été transporté pour passer du petit village au quartier général. Et dans tout ça, On ne mangeait pas, on ne se nourrissait pas parce qu'on a pris le parti de dire qu'on mangeait kasher. On assumait notre judaïsme, on assumait notre manière de penser. On était avec une personne de la communauté locale qui mange également kasher. Et on a dit, notre première chose qu'on a dit, c'est mais il y a moyen de nous donner à manger. Et ce moyen, c'est de contacter le Chabad. Et on leur a donné le moyen de contacter le Chabad à travers Instagram, parce qu'ils ont un Chabad Nigeria. Et parce qu'on avait communiqué avec eux avant le voyage et qu'ils avaient dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez, vous pouvez nous contacter. Et donc, nous, on disait aux autorités qui nous détenaient, parce que notre objectif, c'était également de dire, c'est un moyen de dire au monde qu'on est là, et donc on demande de l'aide, et c'est quelque part, c'est une diplomatie parallèle. Nous, on est franco-israélien, américain, quand on cumule les trois nationalités, on est tous israéliens, mais on cumule des trois nationalités. Donc, vous aviez les ambassades des États-Unis, de France et d'Israël qui bossaient à notre sortie, mais vous aviez quatrième énorme diplomate qui était Israël Uzan et qui nous a permis d'avoir. Mais je vous promets que c'est vrai, le Chabad a joué un rôle moral, mental, d'émouna, de foi absolument incroyable. Et on s'est retrouvé dans cette cellule de manière absolument incroyable. Avec, on n'est pas trois garçons très religieux, très pratiquants, mais on a une foi et on a une attache très 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 particulière. Au judaïsme, à notre peuple. Et il se trouve qu'on a été dans cette prison avec deux paires de téphilim. Et que donc, on se retrouvait avec rien, mais qu'on a réussi à garder deux paires de téphilim. C'est pas grand-chose, mais c'est un signe tellement fort, et tellement fort qu'on s'est mis à tous les matins à faire tourner les paires de téphilim, une pour gaucher, une pour droitier en plus.
Incroyable.
Et c'est mais vraiment incroyable.
Et c'est le Lubavitch qui vous les a donné, les téphilim, David.
Et une kippa de main.
On les avait avec nous.
David, c'est le Lubavitch qui vous a donné les téphilines.
Il y a une kippa de marque.
C'est pas du tout les Lubavitch qui nous ont téphilines. Les téphilines, on les avait avec nous. Le matin, on s'est fait arrêter à 7h du matin de l'hôtel du petit village. Il se trouve qu'on allait pour mettre ces téphilines-là et qu'on les avait en bandoulière. Rudy et Noam l'avaient en bandoulière. Moi, j'avais le sac avec les affaires de premier secours, etc., au cas où. Et quand, au moment où on s'est fait arrêter, on se retrouve arrêté avec deux paires de téphilines et un petit sac à dos avec nos passeports.
Et prison avec rien à manger pendant trois semaines.
Pas pendant trois semaines. Au bout du cinquième jour, le Chabad a réussi à avoir accès à nous, à Abuja, et on a pu avoir de la nourriture cachère qui nous a été livrée, avec qui on a partagé, avec l'autre personne qui s'est arrêtée sur place avec nous, qui est membre de la communauté, et on était vraiment choyé de ce point de vue-là de manière absolument incroyable. Et j'ai pas ramené de souvenirs du Nigeria, mais j'ai ramené en effet une kippa verte et blanche avec marqué en énorme Rabat Nigeria Africa. Je vais chérir toujours cette kippa parce qu'elle m'a accompagné pendant mes trois semaines là-bas.
De prison, je peux vous dire que vous allez la mettre le soir de Rosh Hashanah, vous avez intérêt à avoir, il faut lui faire honneur à cette kippa. Alors on va entendre.
On va la voir. Je vais la poster, vous avez raison. Vous pouvez aller voir sur les réseaux, on va la poster pour bien la montrer.
Ouais. Et on va. Donc on part maintenant pour le Nigeria avec Israël Uzan, qui est chaliar du Rabbi au Nigeria. Israël Uzan, alors, vous, comment est-ce que vous entendez parler de ces trois détenus israéliens? Comment vous vous mettez en place? Au passage, j'ai remarqué le joli compliment, il a dit, nous on faisait la diplomatie avec Washington et Jérusalem, vous pendant ce temps, vous faisiez la diplomatie avec le bon Dieu, c'est ça? Vous étiez en négociation avec plus haut.
Avec lui aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a été mis au courant très très tôt de l'incident par la communauté locale, la communauté nigérienne locale qui avait eu visite de nos trois invités et qui
lui dites pas invité, le
quelques contacts. Et qui avait contact avec nous déjà antécédemment, et donc tout immédiatement ils nous ont envoyé des mails, des textos, les trois invités, les trois expatriés, ils se sont fait arrêter. Donc on a essayé de prendre contact, c'était un vendredi c'était compliqué, Shabbat il n'y a plus personne à qui parler, dimanche également, et lundi matin on a pu interroger doucement certains de la communauté israélienne qui avaient des affaires avec le service de la DSS au Nigeria, et qui nous ont confirmé très rapidement comme quoi effectivement ils avaient été arrêtés, et en plus rapatriés sur Abuja, donc la capitale fédérale. Alors je dois vous avouer que quelque part ça a été, on peut vous dire, quelque chose qui nous a beaucoup beaucoup rassurés. Parce que disparaître au Nigeria, c'est compliqué. Se faire arrêter ou se faire kidnapper au Nigeria, c'est très, très, très angoissant. Mais de savoir comme quoi ils étaient dans les services de DSS, même s'ils sont pas, c'est pas la meilleure des invitations, mais en tout cas dans les services d'État et en plus ramenés sur la capitale, ça nous a beaucoup, beaucoup rassurés.
Il y avait un canal. Ensuite, il y avait au moins un canal.
Effectivement. Et donc, on savait exactement où ils étaient.
Il y a une adresse, il y a un président, il y a un général, il y a un canal.
Il ne les laissait pas communiquer, il ne les laissait pas appeler les familles, il ne les laissait pas appeler les avocats, on n'était pas sûr de la stratégie de prendre, donc on était en contact avec les parents, auxquels je dois vraiment, vraiment saluer, hein, vraiment à tous les niveaux, toutes les familles, grâce à Dieu, mais l'optimisme,
toutes
l'optimisme,
familles,
même des mères juives.
Mais vraiment, absolument
excellent.
D'accord.
Excellent. L'optimisme des mamans, pas d'inquiétude, pas de crise d'angoisse, tout était vraiment très, très positif et faisait confiance aussi bien aux garçons pour leur courage que à ceux qui étaient en train d'essayer d'aider à droite à gauche. Et donc, on était déjà en contact avec l'ambassade de France qui a immédiatement réagi, l'ambassade d'Israël aussi qui a essayé de mieux comprendre parce qu'effectivement, il pouvait y avoir quelques sensibilités. Voilà, donc grosso modo, tout le monde s'est mis plus ou moins au travail pour comprendre. C'était vraiment le plus compliqué, c'est comprendre ce qui se passe, comprendre qu'est-ce qu'on pourrait déjà leur en vouloir, comprendre qu'est-ce qu'ils auraient été reprochés, pour être sûr de ne pas faire d'erreur et de ne pas empirer la situation, parce qu'on sait qu'au Nigeria, entre la justice et la relation humaine, il peut y avoir plein de...
David l'a pris vraiment sur le mode spirituel au sens noble du terme, ésotérique. Vous, en tant que Rav, vous êtes très terre-à-terre dans ce que j'entends. Vous dites d'abord, il nous faut un canal, on veut savoir s'il y a des séparatistes dans le coin.
Non, je ne l'ai pas pris sur le plan spirituel. Je ne suis pas d'accord.
C'est très beau ce que vous avez dit, pourquoi vous ne l'auriez pas fait?
C'est très beau. Non, quand je dis ça, c'est quand je parlais de diplomatie, je vous disais à quel point le Chabad n'est pas uniquement ce que les gens peuvent penser, un élément de soutien spirituel dans tous les lieux du monde dans lesquels vous pouvez vous déplacer. Aujourd'hui, vous avez accès à des repas cachers, à un fil rouge essentiel. Quand je disais que c'était une diplomatie supplémentaire, en plus de Paris, Jérusalem et Washington, vous aviez aussi la diplomatie du Chabad qui, en plus de pourvoir à nos besoins, en effet, alimentaires, de cachers, etc., a vraiment un lien extrêmement proche avec les communautés locales, avec les gouvernements locaux, avec ces actes. Je disais qu'il y a aussi une diplomatie d'équipa, si vous voulez, mais pas forcément parce que c'est du plus haut. Ça, c'est vous qui l'avez interprété, Bernard.
Une fois de plus, comme on sait, lorsque Rabbi envoyait des émissaires, la règle numéro un est évidente. C'est de faire une tova à un juif, rendre service au peuple juif, amener une réponse à la demande. Donc, on s'adapte. Il n'y a pas de maître abad qui se ressemble dans le monde. Et effectivement, c'est notre mission. On a conscience. Elle peut effectivement se traduire sous un aspect, sur un angle spirituel, sous un angle matériel. Et très souvent, vous allez voir que les deux se rejoignent énormément. Donc, notre présence sur place, effectivement, elle a prouvé comme quoi, des fois, effectivement, ne serait-ce que pour l'aspect moral des parents, que ce soit pour l'aspect technique du dénouement de la situation, elle a été extrêmement utile et on en est vraiment, vraiment, vraiment très honoré et très fier de, une fois de plus, d'avoir aussi cet angle-là de mission.
Lorsqu'il y a eu l'attentat de Nice, vous vous souvenez, ce camion qui a écrasé tous les gens sur son passage sur la promenade, j'ai appelé le président de la communauté, il m'a dit mais je sais pas, je peux pas vous aider tout de suite, là, c'est pas possible. J'ai appelé encore d'autres contacts dans la communauté, il m'a dit mais on peut rien faire là. J'ai dit je vais appeler les Lubavitch. Et je vous promets que ça, le chaliar du Lubavitch sur place, il me dit, ils sont dans tel hôpital, tel hôpital, tel hôpital. D'ailleurs, je vais dans cet hôpital dans 10 minutes. Je vous promets que ça.
Lorsqu'on prend conscience, je pense que ça fait partie de nos valeurs juives, nos valeurs de nos traditions. Lorsqu'on prend conscience que le matériel a un aspect spirituel, le spirituel a un aspect matériel, c'est à nous de les unir, et on se rend compte qu'il n'y a pas de mission religieuse ou pas religieuse. Et vu qu'on peut faire du bien, on doit être sur notre garde.
Voilà, vous êtes tous les deux, parce qu'il faut savoir en plus que David Benaïm est très pressé, il a énormément d'entretiens à donner, etc. Il me dit qu'il est pressé. Donc, et là, on a le Nigeria, Tel Aviv et Paris, je ne voudrais pas qu'on rate ce moment. Finalement, c'est David ou Israël, que vous voulez. C'est pour, comment bah, une erreur judiciaire...
Finalement, on arrive à prendre contact avec eux, on arrive à, prendre, à faire parvenir, effectivement, comme vous avez dit, à boucler quelques jours des repas cachers, et ensuite, toute la machine diplomatique se met en marche, aussi bien les aspects américains, israéliens et français. Tout le monde se met en marche, tout le monde fait preuve de beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de, preuve, de courage. On essaie toujours d'envoyer des clins d'œil à nos amis avec qui on ne peut toujours pas communiquer en prison, en envoyant des shawarmas, des cottages, des petits trucs israéliens pour dire effectivement, c'est pas uniquement manger, on est tous là, on est Israël derrière vous. Et même la communauté locale hein, qui s'inquiète énormément, la communauté des Ibo, les tribus qui veulent vraiment le voir, voir ce dénouement de cette situation. Et je pense qu'ils ont eu raison de leur patience. Et bah, au Hachem, à la fin, tout s'est mis en ordre.
Moi, je vais vous dire, ici à Paris, j'ai essayé de joindre le père de Rudy et il m'a dit, et lui, il habite aux États-Unis. Il m'a dit, Bernard, s'il te plaît, laisse faire. Il faut faire la diplomatie telle qu'elle est sur place. David Benaïm. On va clore notre...
On avait vraiment en effet une objectif de silence radio pendant tout ce travail dans les coulisses, c'est très important. On a déjà parlé, vous et moi, Bernard, pour une autre histoire, il y a des temps différents, il y a les temps diplomatiques, le temps judiciaire et le temps médiatique, et c'était le temps diplomatique, et on a beaucoup de chance qu'on a réussi à sortir à ce moment-là, sans avoir à passer par le temps juridique, sans avoir à passer par un clash médiatique. Aujourd'hui, on est là pour raconter notre histoire et tant mieux, et l'histoire de ceux qu'on a été filmés. C'était notre objectif, c'est de documenter ces communautés locales. Mais c'est finalement 20 jours qui étaient compliqués à gérer pendant ces 20 jours, mais qu'on regarde aujourd'hui comme étant une expérience, avec le sourire. Si vous me connaissez, vous savez que j'aurai toujours et toujours le sourire et que je garderai toujours cette lumière.
Mais d'ailleurs, David, est-ce que vous me permettez, puisque c'est vous qui l'évoquez, de dire... Comment je suis rentré en contact avec vous il y a plusieurs mois, David ? Vous êtes le meilleur ami.
Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, de mes meilleurs amis, Fabien Azoulay, qui est en prison en Turquie depuis 4 ans.
Alors attendez, je vais essayer, excusez-moi, je suis un peu intrusif, mais je vais essayer de le faire parce que je voudrais vraiment que les auditeurs comprennent. David Benaïm est l'un des meilleurs amis, moi je disais le meilleur ami, de Fabrice Azoulay, ce juif qui a été mis en prison, jeté en prison en Turquie, parce que il avait pris un produit qui est un peu un excitant, un truc comme ça. Il s'est retrouvé en prison. Quand les gens ont appris qu'il était juif, ils le forçaient à faire la prière, ils le giflaient s'il ne voulait pas faire la prière musulmane, etc. en Turquie. Un truc Midnight Express. Et plusieurs mois plus tard, c'est vous, David, qu'on arrête, mais au Nigeria. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'incroyable ?
Oui, c'est vrai que c'est un peu un comble. Et c'est vrai que ça fait très peur quand on connaît ma position et quand on sait... Je connais très bien ce genre d'histoire pour en avoir été témoin par rapport à mon ami Fabien. En effet, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à son histoire et en espérant avec le plus de force possible que ça ne devienne pas mon histoire. C'est compliqué pour un journaliste qui raconte et qui est témoin de devenir l'histoire. Vous qui êtes journaliste, Bernard, je vous le souhaite jamais parce que c'est vraiment la position dans laquelle on est le plus à l'aise.
Mais vous avez dû des fois vous dire, mon Dieu, si on tombe dans l'histoire de Fabien, mais c'est... Mais pour le coup, donc, bah, heureusement qu'il y a eu tout ce cas.
On ne voulait vraiment pas penser dans... Absolument. Et puis on a été tellement soutenus, tellement aidés par nos familles. En fait, je pense que ça nous a aidés aussi d'avoir traversé l'histoire de Fabien, de savoir que le temps médiatique était important d'attendre. Et c'est pour ça aussi, je pense, que Marc Rochman nous a demandé ce silence radio pendant un petit moment. Et que la plupart
surtout que c'était pas évident parce que ce que vous savez peut-être pas c'est que David n'a pas un seul meilleur ami, il a plein de meilleurs amis. Je vous parle pas les meilleurs amis de sa maman et de son papa hein. Moi je recevais des appels pendant deux semaines, bonjour je suis le meilleur ami de David, j'ai un fils en ce moment il dit rebonjour je suis le meilleur ami de la maman de David et du papa de chacun à son tour, donc c'était exceptionnel. Le frère,
Israël,
le frère en Belgique,
ce que vous savez pas c'est que c'est moi son meilleur ami. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est juste pour le plaisir, on est tellement heureux, tout le monde a vraiment, on sent cette énergie positive, cette très très belle réussite. Grâce
absolument. Et permettez-moi de vous dire encore une dernière fois pour terminer, il faut voir vraiment encore une fois la force du Ham Israël, parce que je vous assure, pendant deux semaines, tout le monde a voulu aider. Je ne sais pas combien de nationalités, combien d'ambassades ils ont eu la possibilité de voir des citoyens de la même ambassade qui appelaient juste pour vouloir aider. Et moi, on a recevé des appels toute la journée. On a entendu parler, on les connaît. Je suis ami sur Facebook. Comment on peut aider? Comment on peut aider? Comment on peut aider tout le monde, même des gens qui je ne sais même pas comment ils ont pu se poser cette question, mais ils voulaient quand même proposer leur aide. C'est arrivé de toute la planète et je pense que c'est une très, 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 très belle force morale pour l'homme Israël de savoir à quel point on est prêt à se mobiliser. Et Israël Chai, encore une fois de plus, Israël Chai.
Merci encore une fois, Israël. Merci encore au Rabat du Nigeria. Et je vous invite vraiment sincèrement à venir voir nos histoires. We were never lost. We were never lost. On est sur les réseaux sociaux. C'est un vrai documentaire. On va être sur les plateformes de diffusion vidéo. C'est notre objectif. C'est vraiment de transmettre cette communauté dont vous n'avez jamais entendu parler. Et on est vraiment là pour mettre la lumière sur ces histoires-là. Donc maintenant, ça y est, on a parlé de nous. On va bien, on est en bonne santé et on va pouvoir vous raconter ces belles histoires et ces histoires positives sur ces communautés dans des recoins du monde dont on n'entend jamais parler. Donc on va
alors mettez-vous au boulot, David, mettez-vous au boulot parce que rien qu'au Nigeria, ils sont beaucoup plus que 4000. Beaucoup, beaucoup plus que 4000.
Oui, on aura l'occasion de
changer. 3-4000, c'est vraiment un bon début. Non, mais même au Nigeria, la communauté des Igbo, ils sont beaucoup plus.
Vous remarquez qu'Israël Bizan, il n'a jamais rien sur aucun sujet.
On va voir aussi les Lamba, on va aller au Zimbabwe, à Madagascar, on va aller en Éthiopie, on va aller... on a beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter et essayer de faire...
Il s'appelle Andrew Liebman. Mais on va... David, vous êtes mon invité à la rentrée pour parler de votre documentaire Stricto Sensus,
avec plaisir.
De votre travail. Il s'appelle Andrew Liebman. Rudy Rochman, David Benaïm, ils ont atterri ce matin à 8h50 précises en Israël à l'aéroport Ben Gurion après 3 semaines de détention au Nigeria sur une accusation, fantasque. On n'a pas pu faire le volet politique, mais il y a toujours une raison quand on accuse des gens comme ça. Des fois, on a besoin, dans le cadre d'un marchandage international, on ne sait pas d'où ça vient. David Benaïm, merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom et d'avoir témoigné d'une manière... aussi belle et aussi forte. Merci également au Rav Israël Usan, qui lui est chaliar du Rabbi, envoyé des Lubavitch au Nigeria. Pour que vous ayez juste une petite idée de qui sont les Lubavitch, ils sont partis le dernier soir et ils ont mangé avec Rabbi Mendy Steinbach. Alors moi je dis au Rav Usan, je dis mais je comprends pas qui est qui. Il me dit non, lui il va ouvrir le prochain Bet Rabbah qui sera au Nigeria et
absolument.
qui sera à Abuja. Ok, d'accord. Merci à tous les trois pour ce très beau triplex Nigeria, Israël, Paris. Merci à tous les deux. Et on a oublié un mot qui est très important, c'est Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, merci beaucoup.
Bonsoir à tous les deux.